BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, bienvenue dans les experts. Il est 9h passé de 31 minutes, c'est le nouvel horaire. Tous les jours désormais, 9h30, 10h30, toujours en direct sur BFM Business. On est parti pour une heure de débat et de controverse sur l'actualité économique du jour. Avec cette question, l'économie française résiste-t-elle mieux que ce que l'on ne pourrait croire? Et oui, la croissance a calé au premier trimestre. Oui, le chômage a franchi la barre symbolique des 8%. Et oui, l'économie tricolore subit des vents contraires avec la hausse des taux et le prix des carburants. Mais BPI France et Rexecode viennent aussi nous dire ce matin que l'opinion des patrons de TPE et de PME sur leur trésorerie est en réalité stable depuis le début de la guerre au Moyen-Orient, voire en légère amélioration pour celle des trois prochains mois. De même, les intentions d'investir cette année qui progressent d'un point par rapport au trimestre précédent. Pas de dégradation majeure sur ces deux points ce trimestre. C'est une petite surprise, nous dit BPI France. Tout comme le ministre de l'économie et des finances qui était notre invité ce matin dans la matinale de BFM Business, qui nous dit que oui, il y a des vents contraires, mais l'économie française résiste. Alors résiste-t-elle vraiment? Ce sera le premier thème des débats ce matin avec mes experts. Et puis la loi est-elle trop bavarde? Le montant des normes en vigueur atteint l'équivalent de deux fois l'intégrale des Misérables. 367 000 textes, réglementations, lois en vigueur, c'est ce que nous apprend le secrétariat général du gouvernement. Comment en sortir? Ce sera notre deuxième sujet. Et puis, à quoi sert le G7? Hier, les grands argentiers de ce monde se sont inquiétés de la hausse de taux. Mais aujourd'hui, le vrai enjeu, c'est de trouver une position commune sur les questions commerciales, d'approvisionnement en matériaux critiques. Ce matin, Roland Lescure nous a annoncé qu'il y aurait bel et bien un communiqué final au G7. Ça n'était pas sûr, c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais arrive-t-on encore à discuter au sein des pays riches? Ce sera le dernier thème des experts ce matin. Voilà, il est 9h passé de 33 minutes. On est parti pour une heure de débat. Les experts, on y va. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Roland Gillet. Bonjour Roland.
Bonjour.
Professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et Université libre de Bruxelles, conseiller de diverses entités publiques et privées. Face à vous, Denis Père. Bonjour Denis.
Bonjour Raphaël.
Président de Nature et People First et Eudox Denis. Bonjour Eudox.
Bonjour Raphaël.
Vice-président du think tank Propriété et Liberté. Allez, je voulais qu'on commence par une grande analyse de l'état de l'économie française. On n'arrête pas de dire depuis le début de la crise au Moyen-Orient que c'est compliqué, que ça va mal, qu'il y a beaucoup de vents contraires, bien sûr. Eh bien, il y a cette étude de BPI France Rexecode sur le moral des TPE, des chefs d'entreprise, de très petites entreprises et de PME, qui nous dit ce matin que finalement, ça ne va pas si mal que ça et que les entreprises pourraient être tentées de répercuter dans leur prix de vente les hausses des coûts qu'elles subissent. On est dans une tempête, nous dit de son côté Roland Lescure, mais la France continue d'avancer. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce diagnostic? Allez, Denis Père, j'ai envie de commencer avec vous.
Je dirais que c'est rassurant d'entendre effectivement ces nouvelles, mais il y a quand même beaucoup d'autres nouvelles qui sont beaucoup moins rassurantes. Le conflit au Moyen-Orient n'est pas terminé, malheureusement. On parle même peut-être d'un redémarrage du conflit, une négociation très compliquée avec l'Iran. Les défaillances d'entreprises qui continue, qui augmente en France. Hein, on est sur une tendance annuelle de 70 000 actuellement.
Oui, ça c'était 2025, effectivement, un record. Hein.
Et puis surtout, le problème de fond du pays, qui est le niveau des prélèvements obligatoires, qui reste complètement hors norme.
On va en parler.
Délirant.
Et les taxes qui ne rapportent plus grand-chose aussi.
Les taxes qui rapportent plus grand-chose, on va en parler aussi. Et on voit bien que pour boucler le budget de l'État chaque année, il est obligé d'augmenter les prélèvements et il le fait systématiquement sur les entreprises comme il le fait depuis toujours, donc avec un surcroît de prélèvements sur les entreprises françaises qui pèse considérablement sur la capacité d'investissement, sur les marges. L'excédent brut d'exploitation d'entreprises françaises est très, très documenté par rapport à nos partenaires européens. On est autour de 30% quand la moyenne européenne est à 40%. Et ça s'explique par le surcroît de prélèvements.
On a pratiquement 10 points d'écart sur les taux de marge entre les entreprises françaises
et les entreprises européennes. C'est documenté par l'Union européenne, par la BCE. C'est effectivement considérable. Moi, j'ai souvent partagé, je fais partie de mouvements d'entrepreneurs européens, et j'étais toujours frappé de rencontrer des entrepreneurs allemands, autrichiens, italiens, qui m'expliquaient qu'ils faisaient des croissances phénoménales. Et je leur disais, mais comment vous faites pour financer cette croissance? Et ils me disaient, on réinvestit les profits. Vous faites appel à des investisseurs, vous faites appel à la bourse, à la banque. Non, on réinvestit les profits. Donc, c'est un véritable sujet. Et parce que on sait très bien qu'on a un surcroît de prélèvement en France sur les entreprises à travers deux canaux principalement, les impôts de production et les charges sociales.
Oui.
Et qui est un véritable handicap pour, en particulier, la relance de l'industrie, la réindustrialisation du pays. Et ça reste un sujet majeur. Et donc, on a cette épée de Damoclès qui arrive chaque année où l'État va chercher 30 ou 40 milliards de prélèvements supplémentaires sur les entreprises qui sont déjà ultra taxées. Et puis là, on voit de nouveau ce débat, en fait, une espèce d'injonction contradictoire où, d'un côté, l'État veut prélever toujours plus sur l'entreprise et puis les syndicats et les salariés disent il faut nous augmenter. Donc, les marges baissent d'un côté, et de l'autre côté, les salariés qui disent il faut nous augmenter. C'est juste pas possible. Et le fond du sujet qui est toujours pas abordé, qui est l'éléphant au milieu de la pièce, c'est en France, c'est juste l'efficacité de la dépense publique, ou plutôt sa très grande inefficacité en France.
Oui, on va y venir.
Et le fait qu'on doit enfin s'attaquer sérieusement à ce sujet-là. Et selon moi, et on va en parler, j'espère, les baisses qu'on pourrait obtenir par une meilleure efficacité de la dépense publique, elles devraient être affectées en partie à la hausse des salaires des Français. Parce qu'aujourd'hui, la principale raison pour laquelle le pouvoir d'achat des Français est laminé, est écrasé, c'est lié au prélèvement hors normes de l'État français.
Et Marie-Lise Léon, secrétaire générale de la CFDT, appelle à une renégociation salariale. On va voir que on en discutait tout à l'heure. Hein, les entreprises sont prises dans un étau entre la hausse du SMIC, le gel des allègements de charges et effectivement un environnement taux assez compliqué. Eudox Denis, là ce qu'on voit, ce que dit l'étude BPI France Rex et Code, c'est que certes, évidemment, je reprenais les chiffres, 62% des chefs d'entreprise, donc deux chefs d'entreprise sur trois, dit quand même avoir un impact négatif du conflit sur leur trésorerie ou leurs résultats. Mais ce qu'ils expliquent, c'est qu'ils vont repasser cette hausse en réalité dans les prix. Et que c'est aussi l'occasion, parfois, d'augmenter un petit peu sa marge.
Effectivement, alors pour aller dans le sens de Denis Père, hein, je pense que on ne peut que se féliciter de la résistance de l'économie française. Mais moi, je serais pas aussi optimiste que notre ministre de l'économie. La vraie question, c'est jusqu'à quand? Parce qu'on voit bien que le coût des entrants, il augmente pour les entreprises, du côté de l'énergie, du côté du coût du travail. On voit les déclarations publiques en ce moment sur la remise en cause des allègements de charges. Le coût de l'investissement, il augmente aussi avec la hausse des taux. Et puis surtout, moi, je veux revenir sur la question des finances publiques, hein, parce que on a vu la situation française qui est quand même assez exceptionnelle. On y reviendra tout à l'heure, mais on a vu surtout que les timides efforts de redressement qui ont été effectués au cours des dernières années reposent essentiellement sur la dépense, et on voit pas comment il pourrait en être sur les recettes, et on voit pas comment il pourrait en être autrement dans les mois à venir. Donc, ce que les chefs d'entreprise devraient aussi anticiper aujourd'hui, c'est de futures hausses des prélèvements. Moi, la vraie question que je me pose, c'est jusqu'à quand. Et donc, ils n'ont pas d'autre choix, effectivement, que de répercuter cette dégradation de la compétitivité sur des hausses de prix sur les consommateurs.
Et Roland Lescure a déjà préparé la voie à un maintien de la surtaxe de l'impôt sur les sociétés pour les grands groupes, ceux qui ont les moyens, dit-il, de payer et de participer à l'effort de redressement des comptes publics, effectivement. Professeur Gillet, quand vous comparez la situation de l'économie française avec celle de nos voisins européens ou peut-être la Belgique, est-ce qu'on vous inquiète ou est-ce qu'on est finalement à l'image de ce qui se passe ailleurs en Europe ?
D'abord, par rapport à la Belgique, on est inquiet pour nous d'abord, on a des problèmes similaires, on est dans les étudiants, je vais dire, par rapport à Bruxelles qui n'ont pas respecté les convergences, on est en déficit excessif est plutôt la Wallonie, je suis wallon, que la Flandre. Mais enfin, c'est la Belgique unie qui est pointée du doigt. Et donc, on a les mêmes problèmes. Les problèmes géopolitiques, eux, et ce qui se passe pour le moment, ils touchent toute l'Europe. Ils touchent même la Suisse, si vous voulez, qui n'est pas dans l'Union européenne. Donc là, on est tous face à quelque chose qui est
un choc exogène, mais qui nous touche tous de la même manière.
Et qui nous gêne beaucoup plus par son incertitude que par le choc lui-même. S'il n'y avait que le choc et qu'on savait combien de temps ça va durer, on saurait beaucoup mieux si les impacts, notamment sur l'inflation, hein, il y a l'inflation des prix de l'énergie, puis après sa transmission au travers, en dehors des produits carbonés, hors de l'énergie qui sont déjà touchés, on verrait si c'est vraiment significatif et s'il y a une hausse générale des prix.
C'est ce qu'on attend pour l'instant.
Oui,
est-ce qu'on assiste à un choc des prix ou un véritable choc inflationniste?
Le problème de l'incertitude créée sur les taux d'intérêt, deux choses. Un, des anticipations d'inflationnistes avec des divergences très fortes selon que ça dure peu ou pas. Et le fait que si ça dure plus longtemps, ça a des conséquences sur l'économie et sur les taux d'intérêt dans des pays fort endettés, que sont notamment la France, mais pas que. Et donc tout ça, ça ajoute une dose, en dehors du climat qui n'est pas bon, sur le coût du financement. Et vous l'avez rappelé tous les deux également. Donc aujourd'hui, ce problème-là, il est général et il n'est pas que français. Par contre, évidemment, l'écart entre l'Allemagne, le taux d'intérêt j'entends, et donc ce qu'on appelle la prime de risque, et les autres pays, a chaque fois tendance à se tendre. Quand on voit que certains ont les moyens, sans nécessairement s'endetter pour la totalité, ou s'endetter pour la totalité, mais en ayant une marge de manœuvre, de ceux qui sont contraints à le faire, alors qu'ils n'avaient déjà pas de marge de manœuvre avant, la France en fait partie. J'entends marge de manœuvre, la dette était déjà un souci. Si vous rajoutez des éléments indispensables à financer par dette, parce que vous ne pouvez pas les budgétiser, et que vous dites que c'est du long terme, ça rajoute un cran plus élevé, ce qui veut dire aussi que les agences de notation interviennent. Donc, en dehors de l'incertitude sur l'inflation, et je terminerai là-dessus, sur ce volet-là, vous avez aussi une prime de risque qui vient sur l'accroissement de la dette, parce qu'on y met beaucoup de choses dans un climat où on était déjà fort endetté. Et il y a des gens qui disent, oui, mais l'Allemagne met beaucoup plus. Oui, mais l'Allemagne part d'un taux d'endettement qui est beaucoup plus bas.
Donc, l'Allemagne est à 60, quand on est à 115.
Donc, clairement. Et si vous rajoutez en plus tous les problèmes, sans les adresser ici, de la transition énergétique, où là aussi, on a promis beaucoup et où on fait quand même des choses chez nous et pas nécessairement la même intensité ailleurs. On a quand même beaucoup d'éléments structurants sur lesquels on doit agir maintenant, qui sont la défense, en espérant d'ailleurs ne pas s'en servir, ou la transition écologique, en voyant qu'il y en a beaucoup qui disent maintenant on abandonne un peu les choses parce qu'on va avoir une crise sociale à l'intérieur de notre pays avant. Donc clairement, ces éléments-là sont là. Mais je pense que ce qui est le pire aujourd'hui, c'est l'atmosphère générale en France. Je vois notamment en Espagne, puisque j'y vais beaucoup pour aussi... parce que j'y suis depuis la crise, il faut réimpliquer la crise, j'entends, immobilière il y a 15 ans. C'est des gens qui ont fait des efforts, qui les ont perpétués.
Et qui ont
payé.
J'ai
vu dans la population, vous savez, quand vous êtes expert extérieur et que vous demandez de faire des efforts, je comprends quelqu'un dit, c'est facile. Toi, tu retournes en Belgique, tu es taxé en Belgique, donc tu proposes de faire des efforts, mais ce n'est pas toi qui les subis. Donc, ce n'est pas très amusant. Et vous doutez que ça soit rationnel ou pas, vous ressortez quand même là-bas, pas très fier. Mais quand vous voyez maintenant que ça marche après le temps, vous dites, ça valait quand même la peine. Mais par contre, ils ont eu une chose que moi, je trouve fou quand même, c'est qu'ils ont fait des efforts à la population qui n'était pas très suivie par rapport au volet qu'ils pensaient que c'était trop dur. Et une fois que les goûts de l'effort ont donné des résultats, c'est devenu le goût de l'effort par patriotisme, par résultat. Et voilà l'Espagne qui va beaucoup mieux. Et je voyais, c'est pour ça, parce que vous me parlez avec la France, j'aurais jamais cru à l'époque de la crise en Espagne que... aujourd'hui, se passerait le phénomène contraire. C'est-à-dire, avant, les Espagnols étaient contents d'aller trouver des emplois en France, en Allemagne, parce que la crise était très forte. Mais de voir aujourd'hui des gens, et notamment des Français, autour de Barcelone et autour de Madrid qui y vont, et ils ne viennent pas parce que la France est foutue, parce que la France va avoir des problèmes de financement graves tout de suite. Non, ils viennent parce que le climat est délétère vu par eux, sur la logique d'investissement qui demande à avoir une visibilité à long terme, alors que la loi change tout le temps. On a parlé du nombre de lois qu'il y a, et que ça devient toujours de plus complexe de savoir qui va tenir le bateau dans un cap. Et, je dis, dernier mot, ce qui a fait la force de l'Espagne aujourd'hui, c'est le fait que les gouvernements successifs se sont appelés, étant donné les efforts qu'ils ont fait, à rester dans la même direction. Corriger un peu, mais pas faire du 180 degrés tout le temps. Et donner donc une visibilité aux entrepreneurs dans le domaine de l'investissement. Et ça paye aussi sur le coût de la dette. Regardez aujourd'hui par rapport à l'Espagne.
L'Espagne
donc je pense qu'on doit rester positif. Si les choses vont dans le bon sens et qu'on s'y tient, la France a certainement aussi de meilleurs jours devant elle.
On parlait des allègements de charges tout à l'heure. Je voulais qu'on écoute Roland Lescure ce matin au micro de Laure Closier dans la matinale de BFM Business, qui explique pourquoi il va probablement devoir geler le barème des allègements de charges.
L'euro public, il est rare. Je souhaite qu'on réserve les aides à celles et ceux qui en ont besoin. Donc on va voir ce qui va se passer du côté des salaires. Moi, je ne fais pas d'aide non discriminée aujourd'hui. C'est pas un cadeau à faire à qui que ce soit, et notamment évidemment à nos concitoyens, parce que in fine, tout ça se retrouvera soit en taxes, soit en économie de dépenses, et ça, je préfère la limiter, l'une et l'autre.
Bon, voilà, il fait gaffe à l'euro dépensé, notre ministre de l'économie et des finances. On a un budget, une cible de déficit à tenir cette année. Votre avis sur ce débat sur les allègements de charges? Est-ce que c'est normal qu'on gèle le barème au moment où on va augmenter les SMIC?
Moi, je pense que c'est une attitude qui est responsable, effectivement. Mais moi, j'aimerais qu'on l'entende plus sur, encore une fois, un véritable programme de réforme de l'État. Ce qui est positif dans ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis le début de son mandat, ça a été cette fameuse politique de l'offre qui a plutôt bien fonctionné. On a commencé à baisser enfin les impôts de production qui, je vous le rappelle, sont complètement hors normes en France par rapport à nos voisins européens. Oui. Belgique, l'Allemagne.
On a commencé à faire le travail.
Voilà, on est encore pratiquement trois fois au-dessus de l'Allemagne et pratiquement deux fois au-dessus de nos voisins européens. Donc, il reste beaucoup de chemin à parcourir. Et donc, c'était bien, le constat était le bon. Le problème, c'est que ça a été fait sans ajuster la dépense derrière. C'est-à-dire que ça s'est fait en le finançant par la dette ou par des transferts, le jeu de bonneteau, sur d'autres prélèvements ailleurs. Donc là, il faut enfin s'attaquer à cette fameuse dépense publique excessive qui fait qu'on a 4 à 6 points de PIB de plus de prélèvements que la moyenne de l'eurozone pour faire la même chose que nos voisins et le faire souvent même moins bien. Donc le sujet central, c'est ça. Et moi, j'aimerais effectivement que notre ministre de l'économie et des finances, alors il n'a pas forcément l'attitude politique de le faire aujourd'hui, malheureusement, mais j'aimerais en tout cas qu'on commence à en parler parce que c'est pour moi le sujet principal, c'est la réforme de toutes les réformes, c'est réformer enfin l'État français pour avoir un État qui soit enfin efficace, à un coût normal, avec un niveau de service en plus de qualité. Ça n'est pas du tout pour l'instant sur la table. J'espère que ça le sera dans le débat de la présidentielle qui arrive, mais ça n'est pas certain.
Il y a un vrai débat, il y a un vrai bras de fer entre le patronat et Bercy en ce moment sur le gel de ces allègements de charges. Est-ce que c'est normal que l'ensemble des entreprises ne bénéficient pas d'une augmentation des exonérations patronales quand l'augmentation n'est qu'autour du SMIC?
Écoutez, là-dessus, le sujet, je pense que, enfin, il est un peu mal posé. C'est-à-dire que la vraie question, pour rebondir aussi sur le propos de mon voisin, c'est la dépense sociale qui n'est pas aujourd'hui. Enfin, on voit ici le réflexe lorsqu'on cherche des économies, c'est d'aller augmenter les prélèvements via une remise en cause des exonérations de charges. Et à aucun moment on se dit que l'éléphant dans la pièce, c'est la dépense sociale qui ne fait qu'augmenter et sur lequel il y a des choses qui pourraient être faites, notamment dans une période où l'inflation augmente. Ça, c'est intéressant pour les politiques, parce que lorsque l'inflation augmente, on peut désindexer.
Oui.
La désindexation rapporte beaucoup.
C'est un des grands sujets du prochain PLF.
L'éléphant dans la pièce, c'est la dépense de retraite.
C'est pas les exonérations de charges. Bon, Roland Gillet, qu'est-ce que vous en pensez de ce système d'indexation de nos allègements de cotisations automatiques sur la hausse du SMIC?
On expérimente ça dans d'autres pays, mais de nouveau, quand on le fait, c'est parce qu'on sait qu'on joue sur la myopie des gens. Ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Je parle de la majorité de la population. Et puis après, ils se rendent compte qu'en fait, désindexé, c'est comme si on relevait, je vais dire, ou qu'on donne un avantage de moins, ou ainsi de suite. Donc, quand on est obligé chaque fois de faire des gestes qui ne sont pas nécessairement bien expliquer ou qui ne montre pas ce que le coût réel de la mesure, et qu'on fait, je vais dire, un peu un tour de passe-passe en disant ben on désindexe, ou bien on indexe les salaires chez nous, on indexe les salaires automatiquement. Et on sait que sur la compétitivité, ben évidemment, ça a un rôle. Par contre, l'année suivante, qu'est-ce que peut dire chaque fois le gouvernement quand il indexe les salaires par rapport aux autres pays européens qui ne le font pas totalement? Ben ça veut dire qu'on a un surcroît de croissance, évidemment, puisqu'on a donné du pouvoir d'achat. Mais c'est après quelques années qu'on voit si la compétitivité des entreprises est touchée et si cet effet positif d'une année, il ne se fait pas payer dans le temps plus tard. Parce que vous pensez, plutôt que d'indexer, on pourrait même dire on indexe et on donne un supplément. Parce que quand vous indexez, vous comblez juste l'augmentation du pouvoir d'achat, pas plus.
Ah bah c'est la logique
de
certains
pays qui n'indexent pas. On voit qu'après les augmentations
d'investissement des centaines de milliards, ça rapportera plus.
Mais voyez, c'est là, parce que vous parliez du phénomène d'indexation des indexations, c'est quand vous indexez, ben après forcément que vous avez indexé plein pot et que les autres pays ne l'ont pas fait, quand ils demandent vraiment une vraie hausse de salaire, les négations sont plus dures et c'est normal, puisqu'on a déjà donné plus qu'on le fait dans d'autres pays. Par contre, les effets négatifs, on les voit après, alors que sur le pouvoir d'achat, on le voit tout de suite. Mais de l'autre côté, si on regarde dans les pays où on n'indexe pas nécessairement les salaires, est-ce que les salaires sont plus bas au total? Non, parce que ne les ayant pas indexés, le pouvoir parfois des syndicats ou de la négociation fait que cette compétitivité meilleure que les entreprises belges se marque aussi, peut-être moins en France pour les prélèvements, par des bénéfices supplémentaires où la négociation se fait entre le patronat et directement les salariés qui disent, bah oui, finalement, on a bénéficié du fait qu'on ne vous a pas indexé, nos biens vendus ont été indexés, on a une marge supplémentaire et on vous les donne, mais au bout du compte, c'est ça que je voulais dire, c'est des tours de passe-passe que dire on désindexe quelque chose, ça fait moins mal parce que les gens ne voient pas tout de suite ce que ça donne, mais au bout du compte, l'un dans l'autre, c'est quand même une mesure qui va dans le sens de ce que vous avez dit qu'il faudrait, c'est-à-dire une mesure claire sur les dépenses de l'État, est-ce qu'on veut y mettre ou pas?
Ben oui, bon, en tout cas, sur cet arbitrage, on en saura plus clair probablement d'ici la fin de semaine. On attend une conférence de presse du Premier ministre jeudi prochain. Allez, il est 9h, passé de 50 minutes, je voulais qu'on avance un peu et qu'on revienne sur les derniers chiffres du secrétariat général du gouvernement, sur la production normative, un des grands mâles français. La loi est-elle trop bavarde malgré les déclarations politiques? Le législateur ne parvient pas à freiner sa production. Le nombre d'articles, de lois et de règlements a continué d'augmenter significativement en 2025. Le nombre de normes en vigueur atteint, tenez-vous bien, un sommet avec 366 999 articles. Précisément. Alors, je sais bien que nul n'est censé ignorer la loi. Je ne sais pas comment on fait avec cette montagne de textes qui nous ensevelissent et qui pèsent évidemment sur la production de richesses. Denis Père, vous êtes très actif aux États-Unis. Est-ce que c'est plus simple aux États-Unis? On la dénonce, moi ça fait 15 ans, 20 ans que j'entends dire qu'il y a un trop-plein de normes, qu'on n'arrive ni à enrayer le flux, ni à nettoyer le stock. Mais est-ce que c'est plus simple ailleurs, finalement?
Oui, bien sûr. Enfin, moi, je peux comparer par rapport à des projets que je développe de stockage d'énergie en France et aux États-Unis. Les procédures en France, pour un projet 100 fois plus petit qu'aux États-Unis, sont aussi longues. C'est-à-dire qu'il faut 4 à 5 ans de processus d'autorisation administrative en France pour faire approuver un projet. C'est le même délai aux États-Unis pour un projet qui est 100 fois plus gros, donc 100 fois plus impactant. Oui. Donc, ça donne une idée, effectivement, des écarts considérables qui existent. Et alors, les raisons, on les connaît. On a une administration qui est très prolifique, effectivement. On a beaucoup de fonctionnaires. On en a plus que dans beaucoup d'autres pays. Et d'ailleurs, enfin, on voit bien, d'ailleurs, que dans les administrations qui sont surpeuplées, comme l'agriculture, par exemple, c'est là qu'on a l'inflation normative la pire. Il faut se rappeler que la population agricole, elle a diminué considérablement ces dernières années, mais dans le même temps, le nombre de fonctionnaires au ministère de l'Agriculture n'a cessé d'augmenter. Aujourd'hui, on a un fonctionnaire pour 4 agriculteurs. Et donc, on se retrouve avec, par exemple...
Les voilà bien encadrés.
Exactement. On se retrouve, par exemple,
avec... qui arrive à l'Assemblée. Hein,
14 normes différentes sur la taille des haies. 14 normes différentes sur la taille des haies. Enfin, c'est juste délirant. Avec en plus des surtranspositions par rapport aux directives, par rapport aux lois décidées à Bruxelles, les fameuses surtranspositions, en particulier dans le monde agricole, qui fait qu'en plus, nos agriculteurs sont confrontés à une concurrence complètement déloyale, pas juste par rapport aux pays qui n'ont pas du tout les mêmes normes que le Brésil, l'Argentine et autres, mais également par rapport à nos voisins européens, puisqu'on surtranspose systématiquement avec donc un fonctionnaire derrière 4 agriculteurs. Donc ça, c'est effectivement quelque chose de dramatique. Ça contribue à une croissance inférieure, à une productivité inférieure, à des marges inférieures. Ça oblige les entreprises à s'entourer de conseils extrêmement coûteux. Alors ça crée
ça nous coûte des milliards.
Ça crée une industrie prospère, très prospère, de consultants qui vivent très très bien.
Ça vous aide à vivre avec ces normes.
Du formalisme, de toutes les sortes d'aides qu'on peut avoir pour respecter effectivement l'ensemble des normes dans lesquelles l'État se noie d'ailleurs lui-même. Il y a souvent des normes qui sont contradictoires. Hein, c'est pas rare. Hein, donc il y a des arbitrages qui sont nécessaires. Donc oui, il y a besoin d'une décision. On en a beaucoup parlé, mais ça n'a jamais été fait, du genre voilà, bah, pour toute norme nouvelle, on supprime toutes ces promesses depuis des années, on n'en parle, mais ça n'a jamais été fait.
Comment faire?
Et la responsabilité d'ailleurs n'incombe pas qu'aux fonctionnaires, elle incombe aussi au Parlement. Enfin, je veux dire, qui rédige au final, qui vote les textes de loi, c'est le Parlement. Ce sont les députés eux-mêmes. Donc la première des responsabilités, elle est entre les mains des législateurs et des parlementaires. Donc c'est à eux de commencer à juste faire attention à arrêter cette diarrhée normative et à enfin contrôler effectivement le nombre de textes de loi et de normes qui sortent chaque année.
Comment on peut réduire le robinet à normes, Docs Denis ?
Je pense que ça passe par une réforme de l'État, parce que la raison de la production de la norme, alors, sur les chiffres que vous avez donnés, quand on regarde dans le détail, vous avez 73% de ces textes, c'est des textes d'origine réglementaire.
Oui. Donc
c'est l'exécutif, c'est l'administration.
Donc ça ne passe pas par la loi. Donc
exactement.
Trois quarts, c'est la production de l'État.
Et pour aller dans le sens de Nipper, effectivement, c'est le fait que la France ait autant de fonctionnaires dont la raison d'être est de produire de la norme, explique cette dimension-là. Alors, c'est pas nouveau. Il y a un texte que j'aime beaucoup, c'est un roman un peu oublié de Balzac qui s'appelle Les employés ou la femme supérieure. Et vous avez l'un de ces employés de bureau qui s'appelle Bourdin, qui esquisse les contours d'une réforme de l'État. Et tout est déjà là. Il dit l'existence du fonctionnaire, enfin, de l'employé à l'époque, comme on l'appelait, c'est de produire du rapport, juste c'est de produire de la norme.
C'est l'administration administrante, comme
voilà. Pourquoi il y a deux raisons pour aller plus loin. Pourquoi il y a une telle production normative? D'abord parce que en France, on a du côté de l'administration, de l'exécutif, de la sphère publique dans son sens large, une culture des moyens, plutôt une culture du résultat. Et donc la norme, c'est aussi un moyen de se protéger, c'est de dire on a tout fait, donc on n'est pas comptable si il y a un problème. Et la deuxième chose qui renforce cette explosion normative, c'est la centralisation. Lorsque vous avez une organisation de la sphère publique qui est plus décentralisée, qui se fonde sur le principe de subsidiarité, vous avez des exécutifs locaux qui sont plus dans l'action, dans la culture du résultat, que dans la production de normes qui, en plus, dès lors qu'on est éloigné du terrain, eh bien, on a un raisonnement qui va être assez abstrait. On va essayer d'envisager un peu tous les cas possibles et produire des textes qui vont être extrêmement bavards. Donc, c'est la raison pour laquelle, effectivement, on peut avoir plein de mesures qui semblent être du bon sens, où on va expliquer, on va fixer des objectifs au ministère,
oui,
aux administrations, en disant que par chaque norme produite...
Il y a une demande de normes et de sécurisation aussi.
Je vais y venir. Il faut en détruire.
Y compris économique.
Il faut en détruire. Ça marche pas parce que, en fait, on s'attaque pas à la racine du problème. L'autre sujet, c'est effectivement, il y a une demande des acteurs. De la part des entreprises, il y a un conflit entre la volonté de simplifier et puis, le souci aussi de la sécurité juridique.
Et oui.
On s'aperçoit que parfois, quand le texte est pas assez précis, ça ouvre la porte à l'interprétation. Et alors, compte tenu aussi de la nature de la sociologie de la justice en France, cette contestation, elle n'est pas toujours favorable
au
bon climat des affaires. Voilà, donc je pense que vraiment le sujet, c'est de revenir plus à la racine, et c'est une vraie réforme de l'État qu'il faut engager avec deux principes. Hein. C'est une culture de la responsabilité dans les administrations, et puis une décentralisation réelle, c'est-à-dire selon le principe de subsidiarité.
Bon, Roland Gillet.
Oui, si vous ajoutez à ça ce qui est supranational, donc européen...
Et oui, il y a toutes les couches en plus, hein, qui
toutes
se
les réglementations qui viennent aussi... parfois en contradiction avec ce qui est dans certains pays appliqué, et avec une demande et des dates où les grands pays d'ailleurs s'assoient un peu plus que les petits sur la manière dont ils les implémentent, vous avez évidemment un cafouillage qui est dingue, parce que vous avez parfois même des lois qui existent dans un pays où on dit attention, la loi existe, mais ne vous fiez pas à ça, parce que comme on est obligé dans 2 ans d'adapter ce qui va être la règle en Europe, ce n'est que temporaire, et entre-temps, l'Europe, elle, change encore ce qu'elle avait dit. L'État fait quand même une norme entre les deux en disant « après, je vais quand même appliquer ceci ». Donc, clairement, tout ça réajoute encore, de la problématique, et puis, beaucoup plus pire que ça, c'est le dumping entre les États. C'est de dire « celui-là, l'implémenter avant moi ». Ça va être plutôt être contre-productif,
oui,
pour lui. Donc, moi, je tarde aussi,
et
j'essaye encore
de
passer au travers.
Aussi,
et donc, clairement, c'est ce qui se passe. Et donc, tout ça crée du cafouillage supplémentaire. Et quand la réglementation européenne part avant celle des États... regardez dans le domaine de l'énergie et dans le reste, ce que ça peut donner après comme résultat, où on se rend compte, et Emmanuel Macron avait effectivement tout à fait raison d'intervenir, quand il a dit, et tout le monde le savait quand même, je pense, en tous les cas les gens qui connaissent un peu le sujet, que le nucléaire est décarboné, mais ça n'a jamais été autre chose que du décarboné. Je veux bien que de temps en temps, quand il sort d'une centrale nucléaire de la vapeur d'eau, c'est comme les nuages, ça, c'est un petit gaz à effet de serre, mais ce n'est pas comme du CO2.
Oui.
Or, c'était un peu comme ça qu'on l'avait mis au départ. Donc,
ah oui.
C'est vrai que l'Europe, parfois, fait ça, je ne vous dis même pas en termes d'intelligence artificielle, hein, Pour le moment, on a plus de réglementations que d'entreprises qui sont mondialement reconnues dans le domaine, alors qu'il y en a des tout petites qui pourraient grandir si on les laissait un petit peu grandir.
On a la réglementation, on a les taxes aussi, et beaucoup, beaucoup de petites taxes qui sont nées ces dernières années sans que vraiment elles ne rapportent grand-chose au final. C'est le prochain sujet des experts après une très courte pause de pub, et puis on viendra aussi sur le G7, le G7 Finance, qui clôture ses portes aujourd'hui à Bercy, au ministère des Finances, en France, à Paris. Ne quittez pas, on se retrouve dans une courte pause, dans une minute, à tout de suite.
BFM Business et la Tribune présente les experts. Raphaël Legendre.
Allez, il est 10h passé de 2 minutes, vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est la seconde partie des experts, on est ensemble jusqu'à 10h30, c'est le nouvel horaire des experts, 9h30, 10h30, tous les jours sur BFM Business, avec toujours autour de la table Roland Gillet, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et à l'Université Libre de Bruxelles, Denis Père, président de Nature et People First, et Eudox Denis, vice-président du think tank Propriété et Liberté. Je voulais qu'on revienne sur la une de nos confrères de l'opinion aujourd'hui qui titre « Petite taxe, beaucoup de bruit pour rien ». Toutes ces petites taxes votées ces dernières années et qui finalement n'ont pas rapporté grand-chose. La principale, c'est celle sur les petits colis, en tout cas la plus récente. Pas la principale, mais la plus récente. La taxe sur les petits colis qui devait nous éviter la submersion des colis chinois et rapporter beaucoup d'argent. Le directeur général des douanes, Florian Collas, a été auditionné il y a quelques jours à l'Assemblée nationale. Et qu'est-ce qu'on apprend ? C'est qu'elle rapporte 13 fois moins que prévu cette taxe. Oh, surprise ! Est-ce que ça vous surprend, Denis Perret ?
Ah, pas du tout. Enfin, c'est vraiment l'illustration parfaite de la courbe de l'affaire, quoi. Hein, où trop d'impôts tue l'impôt, où la base taxable est mobile. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Ben, les colis, ils sont pas entrés par la France dans l'Union européenne, ils sont entrés par les pays voisins. Et on a perdu en plus l'activité économique qui était liée à ça, parce qu'il y a une activité économique dans les aéroports, des transitaires, etc. Donc tout ça est
dans les entrepôts,
en Belgique,
on a eu des reportages d'entrepôts complètement vides.
Voilà,
on participe, c'est très bon pour la Belgique.
Ou dans d'autres pays voisins. C'est assez étonnant que ça n'ait pas été anticipé. Surtout, effectivement, c'est pas nouveau. Enfin, la mobilité de la base taxable, on l'avait vu effectivement pour les yachts aussi, hein, avec la fameuse taxe sur les super yachts en 2017, ou avec la disparition de, si je me souviens bien, c'était la disparition de l'ISF qui avait justifié la transformation en IFI, justifié de dire on va pas quand même exonérer d'impôts ces super yachts, ces ultra riches, c'est un scandale. Donc on va faire une taxe sur les super yachts qui devait rapporter 10 millions d'euros et qui rapporte aujourd'hui 60 000 euros puisque il y a rien de plus mobile qu'un yacht par définition. Donc ils sont tous partis dans des ports voisins et on a perdu aussi, ce qui est absolument dramatique, on a perdu toute l'activité de maintenance sur la Côte d'Azur. Il y avait en particulier de très nombreux chantiers tout le long de la Côte d'Azur qui vivaient, qui prospéraient grâce à ça, et ces yachts sont partis.
Donc c'est la
Donc il y a une destruction, il y a non seulement beaucoup moins de rentrées fiscales, mais aussi beaucoup de destruction de richesses. C'est bien sûr aussi l'ISF, qui est un bel exemple aussi de base taxable mobile, par définition. Avec cette frénésie effectivement fiscale qui est caractéristique du pays, avec d'ailleurs souvent beaucoup d'intelligence. Là, il y en a pas beaucoup, mais il y a quand même souvent beaucoup d'intelligence dans la conception des impôts. Beaucoup de professionnalisme dans la collecte des impôts. Moi, je suis toujours frappé de voir à quel point on est finalement très très professionnel. On utilise les dernières technologies, l'IA maintenant, pour concevoir des taxes en général efficaces, ce qui est pas le cas ici, mais en général efficaces. Et puis les collecter, les recouvrir. D'ailleurs, la réputation de la France dans sa capacité à recouvrir l'impôt est ce qui justifie, entre autres, aujourd'hui, le fait d'avoir des taux sur nos emprunts d'État, nos OAT, qui restent à peu près raisonnables, même s'ils augmentent. Et le paradoxe avec, à côté, l'absence de rigueur sur la dépense, qui est juste invraisemblable. Avec un sujet qu'on n'a pas évoqué, mais un des leviers fondamentaux sur la dépense sociale, c'est évidemment les multiples aides sociales qui sont versées. Il y a plus de 400 aides sociales. On en a au niveau de l'État, on en a aussi au niveau des régions, au niveau des communes, etc. Tout ça n'est pas tracé. Ça serait très simple de dire on attribue un numéro fiscal, vous donnez une aide à quelqu'un, il y a un numéro fiscal associé, on sait qui touche quoi. Et donc aujourd'hui, on sait très bien, c'est pas le cas.
Le vaste chantier de l'allocation sociale unique.
Mais bien sûr, avec beaucoup, malheureusement beaucoup de gens qui d'ailleurs sont parfaitement rationnels, qui à un moment donné touchent des aides qui sont pratiquement équivalentes à ce que leur apporterait un emploi à plein temps et qui préfèrent rester chez eux plutôt que d'aller travailler. Et donc on commencerait par juste tracer ces aides, donc faire preuve d'un peu de professionnalisme sur à qui on attribue quoi, on aurait la vérité des aides versées, et on pourrait dire ben on plafonne à 70% ou 80% du SMIC, qui était dans le programme de François Fillon 2017, qui serait, paraît-il, dans le programme de Bruno Retailleau pour la présidentielle, Absolument. Celui aussi de David Lisnard à ma connaissance. Donc, heureusement, ces idées reviennent, mais c'est des choses relativement simples à mettre en œuvre, de professionnalisme de base, qu'on n'a pas du tout du côté de la dépense. Encore une fois, on a pas mal de professionnalisme côté fiscal, côté rentrée fiscale, et beaucoup moins côté dépense, particulier dépense sociale.
Bon. Le Docs Denis, qu'est-ce qui explique ça, la multiplication de ces taxes dont j'arrive pas, moi, à imaginer que Bercy ne sait pas que finalement ça va rapporter finalement assez peu. C'est quoi? C'est des objets politiques? Je pense plus que des objets fiscaux.
Cette taxe, c'est un pur signal politique. Alors déjà, moi, je pense que le bon angle d'attaque, c'est pas tellement le rendement, parce que, en réalité, quand vous regardez d'ailleurs l'audition de.
C'est quand même la nature même d'un impôt, non?
Je vais y venir. Ça dépend, parce que quand vous regardez l'audition, ils sont, moi, je les trouve assez détendu en réalité dans son audition. Et je pense que dès le départ, l'administration savait que le rendement serait très faible. Pourquoi ? Parce que la France allait devenir la seule à taxer avant qu'il y ait un mécanisme européen. Et donc, la vraie question, c'est plutôt que... Enfin, un impôt, ça peut servir plusieurs objectifs. Et en l'occurrence, là-dessus, est-ce que c'était une taxe qui visait à faire du rendement ou est-ce que c'était la fiscalité comportementale ?
Oui. Et en général, en réalité, ça plusieurs objectifs, ça fonctionne assez mal.
Voilà. Et le drame, c'est que dans aucun cas, ça a marché. Alors, bon, en réalité, ce que dit Florent Cazes dans son audition, c'est que c'était plus ou moins su. Ça pose une question sur la réalisation des études d'impact, parce qu'en fait, elles sont faites par ceux qui veulent promouvoir les mesures. Ouais, donc, en fait, ce sont pas des vraies études d'impact.
C'est sur la santé. Probité,
oui, donc voilà, c'est un vrai sujet. C'est pas seulement sur les taxes. Et donc, on sait d'ailleurs, enfin, ce qu'il dit dans son audition, c'est que finalement, cette taxe, c'est un instrument provisoire, le temps que, à partir de juillet, il y a un mécanisme européen, et qu'en réalité, la manière de traiter le problème qui était à la racine, hein, qui était le d'importer des produits qui étaient non conformes, oui. C'est du côté de l'administration des douanes, des procédures électroniques qui vont être mises en place. Donc ça, c'est pas très vendable politiquement. Donc ça ramène effectivement au sujet de départ, qui est pourquoi on multiplie ces taxes. Moi, je ferai le lien avec l'inflation normative. Aujourd'hui, il ne reste que deux leviers aux politiques. C'est la taxe et la norme. Il n'y a pas de levier d'action réel. Et donc, ces leviers, aujourd'hui, trahissent de plus en plus l'impuissance de l'État. C'est-à-dire qu'à force de les utiliser outre mesure, ils ne font que révéler l'impuissance publique.
Pourquoi il n'y a plus de levier d'action hormis les normes et les taxes? Parce que c'est l'Europe qui décide? Parce que l'économie s'impose?
Parce qu'on vit dans une économie de marché, qu'il n'y a plus d'économie administrée et que on est sorti de l'époque où la rue de Rivoli dicter l'activité des entreprises, et fort heureusement.
Bon. Donc, c'est de l'impôt politique, finalement, davantage que de la fiscalité. Qu'on
oui, c'est, comme la, c'est comme la lutte aussi contre la fraude fiscale dans certains pays. On va récupérer de l'argent. C'est chaque fois ce qu'il y a dit pour faire combler des trous. En fait, on voit qu'on ne récupère jamais ce qu'on pense au départ. Et puis surtout, il y a toute chose égale par ailleurs. On prend une mesure, on va taxer des gens, et on se dit, bon... Avant, il n'y avait pas de taxe, maintenant il y en a une, par exemple, sur les yachts et ainsi de suite. Bon, le type va dire, il y a une taxe. Au lieu de se dire, quel est le comportement opportuniste qu'il va pouvoir utiliser? Est-il compliqué? Là, vous l'avez très bien rappelé, pour les yachts, c'était vraiment facile de les déplacer, sauf à supposer qu'ils soient fixés et qu'on mette un cadenas dessus. Mais il y a plein de choses
c'est
comme
pas
ça.
Vraiment la nature.
Et donc, ici, au niveau de l'Europe, quand vous dites les gens s'en doutaient, si vous êtes le seul à taxer et que la voie, oui. c'est vos propres infrastructures et qu'on peut passer intra-européen, on se doute bien que ça va faire un gruyère et qu'on peut même se demander comment ceux qui le font, si c'est pas une obligation pour des raisons, j'en sais rien, moi, sanitaires ou autres, que ça doit passer par des autorités de contrôle, il y ait même une taxe qui soit prélevée, parce que à partir du moment où tout le monde le fait, pourquoi s'il y a encore quelques derniers qui ne le font pas? Donc c'est eux, ils ne sont vraiment pas passés au travers. Et c'est même gênant, parce qu'ils peuvent se dire, moi je ne sais pas passer au travers, parce qu'il y a encore une autre réglementation qui m'oblige un cachet particulier ou j'en sais rien, et c'est moi qui suis pénalisé, alors que c'est peut-être des choses beaucoup plus louables, hein, j'en sais rien, moi des produits pour des médicaments ou autres, alors que toute une série de trucs qu'on trouve tout à fait... Pas très intéressante, même pour la population. Ils passent, eux, sans problème. Et finalement, c'est la France qui perd. Donc, je pense qu'il y a ce jeu aussi. Vous l'avez vu, c'était aussi à un moment donné la taxe universelle, hein, de dire à un moment donné la taxe universelle, j'entends, sur le capital, ou bien sur les flux, ou bien sur les transactions. Si on la met tous ensemble, avec la même intensité, la même rigueur, ça a du sens. S'il y en a deux ou trois pays qui le font et pas les autres, ben on sait ce que
oui,
ça
va. Oui, il attaque sur les transactions donc, financières qu'on n'a jamais réussi.
Et donc la naïveté de toutes choses égales par ailleurs, les gens ne bougeront pas, alors qu'on sait qu'ils ont un comportement opportuniste légitime quand ils regardent leur cas à eux, et ils ne sont pas non plus obligés de téléphoner à l'administration en disant « écoutez, vous pouvez le faire, mais ça ne nous inquiète pas trop ». Ben ça, évidemment, ça restera toujours un fer de lance qui fera qu'on n'aura jamais les recettes qu'on pense
avoir.
Il
y a quand même des leçons à tirer.
Oui, enfin moi je reviens sur ce que disait Doc Denis qui est très intéressant. On arrive aux limites d'un modèle, effectivement, taxatoire. Quoi. C'est-à-dire que le seul levier que connaît l'État, pour français en tout cas, pour faire entrer des ressources dans ses caisses, c'est les taxes, jusqu'à la caricature absolue qu'on vient d'évoquer à l'instant, au lieu de s'attaquer à l'autre levier majeur qui est la dépense, et qui est l'optimisation de cette dépense, rendre cette dépense efficace. Effectivement, c'est la caricature d'un modèle.
Et sur lequel il a vraiment la main
modèle.
Pour le coup, alors qu'on voit que les taxes, ça dépend de la croissance, ça dépend de la mobilité aussi.
On est aux limites, on est en pleine courbe de l'affaire. Quoi.
Et il y a aussi un deuxième point, cette volonté de, à un moment donné, quand on ne sait plus taxer à l'intérieur du pays, c'est aller taxer des gens qui sont à l'extérieur ou des gens qui font du commerce mieux que nous parce qu'ils ont une taxation moins importante, des marges plus élevées, ils sont plus compétitifs, et dire ben, ceux-là, on les a attrapés à l'entrée. C'est évidemment une manière d'autodéfense, mais ce n'est pas généralement très efficace.
Ou on les empêche de partir.
Parce que c'est un peu comme si vous preniez un aspro quand vous avez un vrai problème de santé, vous soignez le mal local, mais vous ne soyez pas le reste. Et donc ici, dire à un moment donné, face à des sociétés, quel que soit le pays, qui rentrent chez nous avec un avantage compétitif, si d'abord on ne s'attaque pas à l'avantage compétitif, c'est pas nécessairement en augmentant des taxes, même s'il faut se protéger, hein, on est bien d'accord dans le commerce international, quand il faut pas être non plus naïf, mais il y a quand même toute une série de mots au départ qu'on n'attaque pas, et généralement, on n'est pas gagnant quand on fait ça. On joue réactif plutôt que proactif, et sur ce genre de commerce, et notamment les colis et ainsi de suite, il faut prendre une mesure où on est sûr que ça va d'abord marcher, et deux que...
Pour ça, il faut attendre le niveau européen.
Et deux qu'on reste quand même compétitif par rapport aux produits qui rentrent. Hein.
Évidemment.
Je reviens juste sur Balzac, parce qu'il a des formules qui sont extraordinaires, et quand il parlait, pour revenir, cette notion un peu d'impuissance de l'État malgré des moyens formidables, il parlait d'un pouvoir gigantesque mis en mouvement par des nains. C'est exactement ça sur la taxe sur les petits colis.
Effectivement. Bon, quelques leçons à tirer, hein, quand même. La coordination, essayons d'avoir une fiscalité efficace qui ne part pas sur 1000 objectifs différents. Sinon, évidemment, ça te fait peu de recettes au final. Allez, il est à 9h10, passé de 13 minutes. Je voulais qu'on en vienne au dernier sujet de débat ce matin. À quoi sert le G7? Le G7 finance les grands argentiers de ce monde, ministres des Finances et banquiers centraux des 7 premières puissances mondiales. Hors Chine, évidemment, sont réunis à Paris, au ministère de l'économie et des finances ce matin. Les discussions ont repris à Bercy entre les grands argentiers. Alors hier, ils se sont inquiétés de la hausse des taux, évidemment, hein, qui pénalise tout le monde. Aujourd'hui, le véritable enjeu, c'est de trouver une position commune sur les questions commerciales et l'approvisionnement en métaux critique. Alors, on va écouter d'ailleurs tout de suite Roland Lescure qui était au micro de BFM Business ce matin, au micro de Laure Clausier. Il est plutôt optimiste, il nous promettait un communiqué final.
On est dans un moment où on a des désaccords fondamentaux, notamment sur la manière de régler les déficits commerciaux. On en parle, on s'engage, on avance, on progresse. Vous savez qu'on a signé un accord, l'Europe et les États-Unis, à l'été dernier. On est en train d'avancer vers sa ratification. Cette rencontre le montre plus que jamais que, au fond, la loi du plus fort et le bilatéralisme, ça ne fonctionne pas.
Bon, alors la loi du plus fort et le bilatéralisme, ça ne fonctionne pas. C'est un peu le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Le monde des empires, plutôt carnivores. Roland Gillet, qu'est-ce que vous tirez des discussions de ce G7 depuis hier?
Un G7 a au moins l'avantage, même s'il n'a pas la Chine autour de la table, d'avoir des gros protagonistes, et dont certains sont dans la même zone, au niveau de l'Europe notamment.
Oui. Bon.
Mais d'un autre côté, la loi du plus fort, quand on a un plus fort qui n'est déjà pas là, la Chine, et le grand plus fort, c'est pas Bessent, c'est Trump qui n'est pas là non plus, c'était pas son rôle, puisque c'est les ministres
de l'économie,
on est bien d'accord. Donc c'est le secrétaire au Trésor qui est là.
Mais vous savez
que c'est un préparatif.
Chef d'État.
C'est un préparatif, justement, pour le mois de juin. Et donc, on voit déjà qu'est revenu hier beaucoup sur la table, à juste titre, le détroit d'Ormuz et les deux conflits. L'Ukraine et le problème en l'Iran. Et vous voyez de nouveau là derrière, il y a un gros qui compte plus, même s'il impose les choses via son président, qui, lui, a au moins les moyens de sa politique dans l'énergie, puisqu'il en est exportateur net, et lui, à part le prix à la pompe sur le pouvoir d'achat, et
oui,
il les pompe de son sous-sol de manière générale. L'énergie, d'un point de vue géopolitique, dans un climat guerrier, vu l'avantage militaire évident, il est relativement à l'aise. Et trois, malheureusement, dans le domaine de l'intelligence artificielle et de nouvelles technologies, il y a les fameuses sept grosses valeurs, ça c'est sûr, mais il y a aussi l'évolution du PIB américain, sans parler de Trump, depuis la crise de 2008. Si vous regardez 2010 à 2023, plus de 30%, plus 34%, plus 21% en Europe, on ne parle pas de l'évolution de la bourse. Donc clairement, il y a quand même un dynamisme, un pragmatisme, ce que vous voulez, aux États-Unis, qui fait la différence. Et puis aujourd'hui, quand on parle avec Trump, on ne parle pas qu'avec Trump, on parle avec le président qui est derrière les États-Unis ou qui est devant les États-Unis, selon comment vous voulez le positionner. Et donc, cet acteur, quand on dit « nous ensemble », il dit des choses de façon tout à fait désagréable, c'est certainement vrai et parfois pas nécessaire. Mais de l'autre côté, il nous dit aussi des réalités sur lesquelles on va bien être obligé d'adresser le problème, que ce soit au sein de l'OTAN, que ce soit au sein de l'Ukraine, encore aujourd'hui. Les Américains disent souvent, les Européens disent que ça les sert, que quand ils mettent des moyens, ils doivent acheter du matériel américain. Mais avant qu'on ne les y oblige, il y avait déjà 78% qui étaient du matériel acheté aux États-Unis parce qu'eux en avaient et pas nous.
Et oui.
Donc il faut regarder quand même les points de départ. Et aujourd'hui, on voit quand même que ce qui nous ennuie très fort, c'est le détroit d'Ormuz. Les Chinois ne sont pas là, mais eux aussi. Les Japonais, clairement également. Nous aussi, pour toute une série de choses. Les Américains, je ne dis pas qu'ils sont en spectateur, mais ils sont, eux, beaucoup moins concernés. Et donc, c'est un peu les intérêts de chacun qui poussent l'agenda sur ce qui va être décidé au mois de juin. Et on voit pour le moment qu'il y en a un acteur qui, lui, est très pressé parce qu'il a un mi-terme devant lui. C'est le président américain.
Oui, c'est Donald Trump, évidemment.
Et donc, on n'a pas non plus le même agenda politique que lui, et les Iraniens n'ont pas d'agenda politique structuré, eux, du tout. Et les deux autres blocs, la Chine et la Russie, non plus. Donc, clairement, aujourd'hui, tout ça joue dans la balance, mais chacun défend. On est tous en conflit d'intérêts quand on est autour des négociations.
Tout ça se voit, évidemment. Évidemment, et tous ces pays discutent en permanence entre eux. Donc, à quoi ça sert un G7 aujourd'hui, Dox Denis ?
Ça, c'est une bonne question. Moi, je pense qu'il faut relire aussi le discours de McCarney. Il pose un peu les termes du débat. La question aujourd'hui pour les pays comme la France, c'est est-ce qu'on peut encore peser en tant que puissance moyenne dans un monde qui a rompu avec le multilatéralisme. Vous parliez du fait qu'on n'avait pas le même agenda que les États-Unis. On ne parle plus le même langage. Moi, j'ai relu le communiqué qui a été émis par les ministres des Finances à l'issue du G7, là, le 6 mai. On est peut-être le dernier pays qui fait encore référence à l'OMC. Vous n'imaginez pas les Américains parler de l'OMC aujourd'hui.
Oui.
Donc la question, c'est est-ce qu'on arrive au sein du G7 à former un embryon de coalition de puissance moyenne entre la France, l'Allemagne, le Canada, l'Italie, par exemple, et à peser collectivement face à des Américains qui sont dans une logique d'hégémone et d'instrumentalisation en fait des organes multilatéraux pour pouvoir remplir leurs objectifs géopolitiques, ou est-ce qu'on va acter finalement cette rupture qui était annoncée par Marc Carney. Et je pense que le problème pour la France, c'est que autant on peut être assez satisfait en tant que Français du volontarisme qui est exprimé par notre exécutif, autant on peut être inquiet quant à notre capacité à peser du fait de notre manque de crédibilité, parce que la France aujourd'hui est vue comme un pays qui n'a pas su accomplir les réformes de ses voisins, qui est en déclin économique, en déclin culturel, en déclin presque civilisationnel. Donc le vrai sujet, c'est celui-ci, c'est qu'en fait ce que cherche à faire la France, les intentions sont plutôt bonnes, et en tant que Français patriote, on ne peut qu'y souscrire. Le vrai sujet, c'est est-ce qu'on a les moyens de ces ambitions-là ? Et la France, aujourd'hui, n'est plus en capacité de dicter un agenda et même d'embarquer ces autres puissances moyennes.
Dicter un agenda, non, mais d'organiser ces rassemblements, voilà, effectivement, et d'avoir une voix qui peut porter. C'est aussi l'occasion de ça, peut-être, de ce G7.
Oui, peut-être. C'est, en tout cas, moi, ce que j'espère, c'est que les derniers développements autour de l'Iran vont peut-être amener Donald Trump et les États-Unis à revoir, effectivement, cette attitude très hégémonique, où après avoir attaqué effectivement les Européens avec le Groenland.
Vous y croyez ça ?
Et moi,
Trump, qu'il soit moins hégémonique ?
Moi, je pense qu'il est capable d'apprendre de ses erreurs, comme tout individu normalement constitué. Et j'ose espérer qu'effectivement, en se retrouvant seul face à l'Iran, n'ayant pas réussi à former une coalition pour l'aider à vaincre effectivement un régime qui, de toute évidence, est absolument épouvantable. Et je pense que les Européens auraient volontiers suivi une coalition avec les États-Unis pour venir à bout de ce régime, qui en plus, effectivement, exerce un chantage reportage épouvantable, scandaleux sur le détroit d'Ormuz, s'il n'y avait pas eu effectivement ces attitudes extrêmement agressives sur les questions commerciales dans les trimestres précédents. Et donc il y aura peut-être pour les années à venir, en tout cas c'est ce que j'espère, une leçon qui sera tirée du côté des États-Unis. Et ce que je trouve intéressant aussi au G7, c'est qu'effectivement on se retrouve tous sans la Chine, qui est quand même un sujet majeur aussi de préoccupation par rapport effectivement aux matériaux rares, hein, et là aussi au chantage qu'exerce la Chine sur les terres rares, hein, puisque la Chine a été extrêmement visionnaire et en même temps a aussi su tirer parti de ses normes sociales et environnementales au rabais et donc a pris un leadership ces 20 dernières années sur les terres rares. Il faut se rappeler que les terres rares, hein, c'est ces 17 matériaux au nom imprononçable qui sont critiques dans la défense.
Et contrairement à leur nom, ne sont pas rares du tout.
Ne sont pas rares du tout, mais qui nécessitent effectivement un process effectivement extrêmement lourd de raffinage et très polluant potentiellement. Les États-Unis et l'Europe étaient leaders jusque dans les années 80 sur ces segments. Et on a complètement abandonné ces segments à la Chine, qui est devenue un leader majeur avec des productions à 80-90% de la ressource mondiale, qu'elle weaponise aujourd'hui, qu'elle utilise contre nous, effectivement, parce qu'on a laissé filer ses savoir-faire. Et donc là, il est intéressant qu'on se retrouve entre nous pour discuter de la façon de rééquilibrer, effectivement, les règles du commerce dans ce domaine-là. On ne rééquilibrera que si on a des coûts qui sont comparables. Et on n'aura évidemment pas les normes environnementales ni sociales de la Chine. Donc il faut en discuter. Il faut probablement des compensations environnementales, sociales, aux frontières, etc. pour essayer de rééquilibrer le commerce sur les terres rares, mais pas que, et éviter que la Chine weaponise effectivement cette domination et s'en serve contre nous.
Ce « nous », il doit être au niveau du G7 ou il est plutôt au niveau européen, Roland Gillet ?
Pour le moment, il est certainement des deux côtés. Mais justement, la Chine n'étant pas là, ça simplifie un peu les discussions, puisque quand il y a un point compliqué, on dit c'est de la faute des Chinois. Comme les Chinois ne sont pas là, ils ne peuvent pas réagir. Ils ne peuvent pas dire surtout pourquoi eux agissent aussi.
Évidemment.
Et il y a un point, moi, je trouve, qui est très important pour les Européens, et ils le savent, c'est que d'un côté, quand ils sont face aux Américains, les Américains, ils ont la suprématie sur l'énergie, ce qui permet d'ailleurs à l'industrie d'être beaucoup plus profitable déjà au départ que la nôtre, dans tous les cas l'industrie. Mais vous avez vu que dans les sociétés de services, ils sont pas mal non plus, donc ça veut dire que ça pose problème. Deux, sur le plan géopolitique, ils ont une vraie armée mondiale respectable et le contrôle du ciel. Et trois, dans le domaine de tout ce qui est innovation, ils sont pas mauvais non plus. Donc eux, je vais dire, on peut faire du complémentaire avec eux parce qu'on a besoin d'énergie, parce qu'on a besoin d'être encore défendu, parce qu'on a... Mais du côté chinois, eux, ils ont les mêmes problèmes. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas une armée digne de ce nom, mais vous avez vu qu'ils viennent de perdre 10 responsables, ou en tout cas de les mettre dehors au niveau de l'armée, premier élément. Deux, vous avez vu que dans les conflits au niveau de l'Ukraine, c'est quand même très sympathique de dire on ne condamne pas, et de l'autre côté récupérer une partie de l'énergie, parce qu'eux ont besoin d'énergie comme nous carbonés, et de l'aller la chercher au passage, et de permettre d'ailleurs à Poutine d'avoir des moyens supplémentaires pour continuer la guerre avec nous. Donc clairement, eux, ils sont sur les mêmes problèmes. Regardez le détroit d'Ormuz, c'est un problème encore plus chinois, mais c'est un problème d'énergie carbonée qu'on a encore besoin maintenant et que les Européens rencontrent,
oui,
pas les Américains. Si vous prenez maintenant sur le reste du commerce, les Chinois, leur surplus, où voulez-vous qu'ils le placent ? Ils sont très productifs, on sait bien qu'ils vont venir certainement essayer d'en écouler chez nous. Donc ils n'ont pas du tout les mêmes problèmes, mais ils sont sur le même mode de concurrence. Et étant donné les points de départ et géopolitiques, ils ne nous auront jamais aidés, ils ne nous aideront sans doute pas. On l'a vu avec la guerre en Ukraine, et sur le volet de l'énergie, ils sont aussi coureurs derrière de l'énergie, et sur les terres rares, ça, vous l'avez très bien dit, ils ont un leadership en dehors de ce qu'ils ont comme terres rares chez eux, c'est parce qu'on accepte encore en Chine de polluer très fortement par le processus qu'il faut pour avoir ces terres, je vais dire, quand elles sont en état vraiment d'être utilisées. Et de nouveau, je ne suis pas sûr que nos populations, pas plus avec le gaz de schiste d'ailleurs à un moment donné en France, qu'aujourd'hui, si on disait on les rapatrie, on trouverait un système. Donc il faut qu'on soit quand même cohérent entre nous. Je trouve que les problèmes, ils viennent quand même de dire trouver un accord avec la Chine, c'est un accord entre concurrents avec des mises de départ les mêmes. Avec les Américains, on peut encore espérer, mais je suis d'accord avec vous, ça ne rend pas du tout la tendance maintenant avec Trump au pouvoir, à avoir des complémentarités qui, par le passé, nous ont rendus quand même très forts au niveau de l'OTAN, au niveau du bloc. Quand tu disais l'Occident, c'était l'Europe et les États-Unis. Donc, il faut faire très attention. Et les Américains ne sont quand même pas tout à fait naïfs. Trump fait semblant, voilà. Mais vous voyez bien qu'il veut quand même pas... Il veut sûrement nous asservir beaucoup plus que les autres, par sa puissance actuelle. Mais je ne pense pas qu'il a envie, à un moment donné, de séparer complètement et de laisser aller l'Europe à volo. Ça, il ne faut pas non plus exagérer.
Bon, sur les matériaux critiques, à quoi ça va servir un communiqué commun, si on est sans la Chine ? Question bête, mais c'est quand même l'un des grands piliers des discussions de ce G7, avec l'énergie et la guerre commerciale.
Qui est un front commun, qui est tout simplement un front commun des clients de la Chine sur les matériaux rares, oui, pour dire à un moment donné, stop, on n'accepte plus effectivement cette weaponisation de la domination de la Chine sur les matériaux rares. Et toute attitude hostile vis-à-vis d'un membre du groupe entraînera une réplique collective, déjà pour commencer. Et puis ensuite, des réflexions sur comment rééquilibrer effectivement les échanges sur ce
les
segment.
Les grands déséquilibres mondiaux.
Sur ce segment, parce qu'il y a des écarts de coûts qui sont considérables. On n'arrivera jamais, effectivement, comme le disait Roland à l'instant, au coût chinois, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes normes environnementales et sociales. Et donc, il faut à un moment donné trouver des règles de fonctionnement qui feront qu'on aura un commerce de nouveau équilibré sur les matériaux rares, et puis peut-être même d'autres sujets derrière, parce que ce n'est pas le seul domaine sur lequel on est impacté. Mais déjà, commencer par ce sujet-là, ça serait bien. Et donc, un communiqué commun qui trace la route, qui donne une voie, qui donne une vision sur ce sujet-là, ça serait déjà très bien, parce qu'effectivement, on est tous partis liés. États-Unis, Europe, Amérique du Nord, incluant le Canada, on a tous le même problème et on est tous des démocraties, on partage tous les mêmes valeurs et donc on est tous dans le même bateau face à une Chine qui, sur ce sujet-là, a une attitude qui est totalement en contradiction avec notre vision.
Vous
avez vu que c'est un des points du G7, hein, parce que la Chine, de nouveau, n'y est pas, c'est de dire, ne nous adressons plus seul à la Chine, hein, et les Européens en premier disent, il faut qu'on ait une réplique commune, parce que sinon on rentre comme dans du beurre, hein. Le dumping il sera pratiqué aussi.
On verra ce que dit le communiqué final du G7 Finance, attendu dans les prochaines minutes, fin de matinée, prochaines minutes, prochaines heures, sur ces différents sujets. Merci à tous les trois, Roland Gillet, le Docs Denis et Denis Père, pour cette émission passionnante, disponible en podcast et replay sur l'application BFM Business et toutes les plateformes. Tout de suite, vous retrouvez Sandra Gandoin pour BFM Entreprise spécial Leadership. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même endroit, en direct à 9h30 sur l'antenne de BFM Business. Très bonne journée à tous.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.